gentlemen. Goedenavond, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, bienvenue dans la causerie dimanche 22-23h sur Radio Canu comme toujours. D'abord, pour nous joindre, je vous rappelle lacausericanu@gmail.com ou pour les blogs, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Je suis presque.
Tu y es presque.
Et ce soir à la technique, on a Jean-Yves.
Bonsoir et Fab dans les studios.
Bonsoir.
Alors on est en format toute petite équipe, mais parce que ce soir, en fait, on va vous proposer l'écoute du témoignage d'Amina, qui va durer 1h30.
Environ, oui.
Voilà, entrecoupé de musique, tout ça, tout ça. Quoi vous dire ?
Bah déjà qu'il y aura un son durant ce témoignage, on va essayer de vous faire écouter le son, attention. Voilà, vous l'avez entendu, et quand vous entendez ça, c'est juste que nous avons bipé une information qui aurait pu poser problème à Amina, et donc voilà, pour la protéger, eh bien, nous avons enlevé certaines infos.
Pour prévenir tout de suite, vous l'entendrez deux fois tout au long du témoignage, mais c'était juste que si vous l'entendiez...
Il n'y a pas de problème sur votre poste.
Voilà, c'est ça, vous ne vous demandiez pas qu'est-ce qu'il se passe.
Eh bien, on va vous laisser avec le témoignage et on vous retrouve après, c'est-à-dire dans une heure et demie environ.
Bonne écoute.
Natural duas, bien bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui, en dehors des studios de Radio Canu, hein, on est là pour recueillir le témoignage d'Amina. Bonjour Amina.
Bonjour.
On est aussi en compagnie de Fab et de Clara.
Bonjour.
Bonjour.
Et ben donc, ben on va recueillir le témoignage d'Amina. Tu vas pouvoir nous parler de ta vie, de ton parcours. Et on peut peut-être commencer par une petite présentation d'où tu viens. Et on continuera après avec nos questions. Voilà.
Merci. Hein. Merci de m'avoir donné en tout cas cette occasion. Merci à vous toutes et à tous. Et là, du coup, je m'appelle Amina. Je suis née dans un petit village qui se trouve au nord d'un pays, qui se trouve dans l'Afrique de l'Est. Et là, je suis née dans un tout petit village. Après, je suis allée faire ma première école, en petite section, à un autre village qui est toujours aussi dans le nord du pays, mais qui est un peu plus grand que l'autre, étant donné qu'il y a un centre hospitalier, il y a des écoles et tout. Et là-bas, j'ai commencé ma petite école. Et après, j'ai eu aussi, en tout cas, mes petits frères et sœurs sont nés. On était dans la famille 7, hein, 5 filles et 2 garçons. Mon père était ancien combattant, ma mère au foyer. Et là, après la classe de CMD, j'ai eu mon entre 6e et je suis allée dans la ville, dans une autre, bien sûr, là où j'ai, dans mon petit village, il n'y avait pas le collège. Et là, dans une des villes, hein, qui font en tout cas les 5 districts du pays. Et là, j'ai fait mon collège pendant 4 ans. Et après le collège, j'ai eu mon entrée en seconde, au lycée. Et là, je suis allée dans la capitale pour faire le lycée. Et après mon bac, j'ai eu le bac technologique. Et là, j'avais envie vraiment de faire juriste, et au plus tard, je voulais être avocate. Et après, malheureusement, ça n'a pas marché, mais j'ai pu quand même faire le droit. Après mon bac, alors je suis allée au Maroc pour faire mes études universitaires. Et au Maroc, j'ai fait... c'est vrai que l'État chez moi, c'est pas comme en France, hein, là où les élèves ont le choix de choisir ce qu'ils veulent. Chez nous, c'est imposé. Parce que ça va, c'est l'État qui choisit ce qu'on a à faire. Mais heureusement pour moi, j'étais inscrite, la première inscription, c'était à Bordeaux, en France. Mais comme c'était ce que l'État avait choisi, et je devais faire un secrétariat informatique, pour éviter ça, je suis allée avec les étudiants qui n'ont pas eu leur inscription en France et qui devaient aller au Maroc. Et là, j'ai atterri au Maroc, à Rabat, et j'ai fait mes études d'université. Et là, j'ai fait ce que je voulais faire, du coup, du droit. Et après, ma maîtrise de droit, qui équivaut à un master 2, j'ai eu alors le droit privé en juillet 92. Et entre-temps, avant ça, en 90, je me suis mariée avec un garçon qui était au Maroc. Et là, j'ai eu, de ce mariage, j'ai né une petite fille en 91. Et après, en 91, on devait rentrer parce que mon mari avait fini ses études. Et là, comme j'étais toute seule, je ne pouvais pas garder la petite. On est rentrés ensemble. Et là, quand je suis rentrée, le pays était en guerre. Vraiment, la guerre qui s'est... Au départ, c'était justement entre l'opposition armée et le gouvernement, du pays. Mais après, ça s'est transformé en guerre civile parce que, comme vous connaissez, en fait, dans le pays, il y a plusieurs communautés qui vivent ensemble. Et cette communauté qui, au départ, vivait depuis la création, l'existence du pays, par la suite... s'entendaient plus et du coup il y a des mariages mixtes, on vit ensemble mais des fois c'est compliqué et là ça venait jusqu'à vraiment la guerre civile et là c'était très 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 dur. Je suis arrivée avec ma fille et après je devais retourner finir ma maîtrise, hein, qui était la dernière année, À ce moment-là, quand je l'ai eu, j'étais en troisième année, j'avais eu ma licence et après, je devais retourner pour faire. Et là, c'était compliqué. J'ai dû laisser en tout cas ma fille, mon mari, retourner pour finir mes études. Je suis retournée juste après ça, parce que quand je suis arrivée, c'était un peu calme, il y avait le cessez-le-feu. Mais après, quand je suis arrivée, juste un mois après mon retour hein, au Maroc, il y a eu vraiment là un grand conflit qui a vraiment ravagé pendant lequel j'ai perdu beaucoup de mes amis, hein, de mes amis hein, qui étaient avec moi au collège, à l'école primaire, des petits, voilà, mes amis d'enfance. Et là, ma famille était aussi vraiment, voilà, j'avais aucune nouvelle de tout le monde, hein, de ma famille et du pays complètement. Et après, j'ai dit, en tout cas, j'ai fait tout, hein, je ne sais pas comment j'ai eu ce courage, mais j'ai terminé mon année, j'ai obtenu ma maîtrise en droit privé. Et là, après, je suis retournée chez moi. Et là, quand je suis arrivée, mon mari n'était pas là parce qu'il avait rejoint l'opposition. Et après, quand je voulais aller à mon village où j'ai laissé ma famille, ma mère, entre-temps, c'est que juste une petite information, j'ai perdu mon père en 90. Hein, et là, ma mère était avec mes frères et sœurs qui étaient tout petits. Hein, ils étaient tous très, très jeunes, avec ma fille. Et après, il y avait trois qui étaient au collège. Mais après, quand il y a eu, en tout cas, tout le monde s'est rassemblé. Ils étaient tous au village. Et après, il paraît, après vraiment un grand conflit, ils ont dû partir tous en Éthiopie pour se réfugier là-bas. En retour, après, quand moi je suis arrivée, j'ai eu vraiment un grand problème pour aller là-bas. D'abord, il y a un problème de transport. Aucune voiture n'arrivait parce que le territoire n'était pas dans la main du gouvernement. Hein. Une partie, c'était dans la main du gouvernement, une autre partie dans la main de l'opposition. Et là, il fallait marcher jusqu'à, aller en voiture quelque part, juste de la ville, hein, qui est là où j'ai fait mon collège. Et après, une très bonne distance, mais une grande distance, il fallait marcher à pied. Et à un certain moment, avoir les voitures, en tout cas de la part utilisée par l'opposition. Et après, quand je suis arrivée là-bas, heureusement, ma famille était de retour. J'ai retrouvé ma fille, mes frères et ma mère. Et après, j'ai dû rester là-bas pendant un bon moment. Et après, il fallait bien que je travaille. J'avais une fille, j'avais aussi mes frères et sœurs que je devais nourrir, que je devais élever. Et là, j'ai dû retourner avec ma fille et ma sœur, qui est actuellement médecin. À cette époque, elle était au collège, elle était toute petite. Et là, on est retourné et j'habitais avec ma belle famille. Et après, j'ai attendu en tout cas, j'ai commencé juste un mois avec un avocat. Et après, ça n'a pas, en tout cas, je n'ai pas trop aimé. Hein. Et là, j'ai dû quitter. Et après, j'étais embauchée dans une association étatique qui est en tout cas, qui a une autonomie financière. Et là-bas, j'ai commencé en tant que chef de service. Et après, deux ans après, j'étais nommée au poste de la directrice commerciale. Et là-bas, je suis restée presque 5 ans sans avoir le salaire que je méritais, sans avoir les avantages, mais je n'avais pas le choix. Pour pouvoir élever mes frères et sœurs, il fallait que j'accepte ce qu'on me donne. Et là, j'ai travaillé très dur. Hein. Je ne pouvais pas vraiment avoir accès, alors que les autres étaient là pour aller en formation continue. Juste un moment, je suis partie à une formation dans la gestion du management au Canada. Et là, j'ai obtenu parce que il n'y avait pas en tout cas de. Il fallait qu'il y ait le gouvernement canadien qui finançait ces projets-là pour les jeunes managers. Et là, il fallait parité entre les femmes et les hommes. Et là, comme il n'y avait pas de femmes aussi, parce qu'il fallait avoir des profils, hein, et là, ce profil, il n'y avait pas de femmes, en tout cas, beaucoup de femmes. Et là, j'ai eu la chance de faire partie de ce genre-là, je suis partie pour 4 mois et 10 jours. J'ai fait et j'étais spécialisée dans le domaine du management, la gestion des ressources humaines et la gestion du projet. Chacun de nous, on était 3 hommes et une femme, qui était moi. Et là, il fallait qu'on se spécialise pour pouvoir après donner des cours au niveau de la, dans une école qui s'appelle l'Institut, voilà, une école d'administration publique qui devait, en tout cas, là où on donnait des, en tout cas des, une formation, dispenser une formation pour les jeunes cadres qui viennent, voilà, qui viennent de finir leurs études. Et là, pour cela, et j'ai fait ça, et après j'ai donné un peu, j'ai dispensé quelques cours, et après j'avais tout le temps, parce que mes contentements, étant donné que j'ai travaillé plus, j'ai gagné moins. D'abord j'étais une femme, et après une femme, voilà, qui n'avait personne, hein, au niveau de cette, sur la scène politique, hein, chez nous c'est ça, hein, c'est qui marche, hein, il faut avoir voilà, un oncle ministre, un cousin ministre, en tout cas quelqu'un, ou faire partie de la famille au pouvoir. Et là, pour cela, moi, je n'avais pas, mais je n'avais que ma tête. Et ma tête, voilà, c'était en tout cas très compliqué, hein, pour pouvoir avoir ce qu'on voulait. Et là, j'étais obligée d'accepter. Et là, je continuais jusqu'à ce qu'un jour, hein, pour du temps, je n'avais pas ce que je méritais. Et après, carrément, on a dit, mais on ne veut plus de toi. Parce qu'il fallait trouver, en chercher une place à quelqu'un d'autre qui est de la famille. Et là, pour une raison qui m'est inconnue jusqu'à aujourd'hui, on m'a écarté de mon travail et je suis restée sans salaire, sans rien du tout.
Là, toi, tu n'avais plus de salaire, donc tu as été écarté et tu avais quand même toujours une charge familiale assez forte parce que tu disais il y avait tes frères et sœurs, il y avait tes enfants. Et du coup, comment tu as réussi à gérer ça à ce moment-là, en fait?
Après ça, juste avant que vraiment qu'on m'écarte, il y a ma sœur qui a eu son bac et qui est partie faire, elle a eu avec mention très bien, du coup, elle bénéficiait d'une bourse française. Et là, elle est partie faire, en tout cas, les études de médecine. Et là, elle est rentrée. Juste au moment où, moi, vraiment, j'étais écartée de mon travail. Et mon mari aussi, il a eu promotion, hein, de son côté, les choses allaient beaucoup plus mieux, hein. Et là, il avait en tout cas un salaire suffisant pour pouvoir nous prendre en charge. On sait qu'on s'en a un dans sa famille, hein, c'est-à-dire, bien entendu, mes enfants et moi. Mais pour le reste, il y avait mes frères, il y avait certains qui... Ils sont tous allés jusqu'à l'université, sauf celle qui était après moi. Quand moi, je suis partie étudier, il fallait bien qu'elle travaille pour le reste, parce qu'on n'avait rien du tout. Il y a mon père qui avait une retraite. Nous, on croyait que c'était une retraite, mais apparemment, comme il était ancien combattant, et là, dès qu'il est mort, on nous a dit « vous n'avez plus droit ». Et là, on ne savait pas. Normalement, la retraite devait rester pour les enfants. En plus, les enfants, moi, j'étais majeure, mais il y a des petits-enfants. Là, je n'ai pas compris. Du coup, on nous a dit que c'était une aide, voilà, juste pour reconnaître, en reconnaissant de ce qu'il a participé, mais il n'avait pas une retraite. Et on ne sait pas pourquoi. Et là, du coup, on n'avait plus droit à ça. Et après, avant aussi de mourir, il avait travaillé un peu dans les travaux publics. Il était chef d'équipe. Là, il avait une petite retraite aussi, une petite retraite, mais vraiment tout petite. Et là aussi, après, je ne sais pas pour quelle raison, juste quand j'ai commencé à travailler, on nous a dit qu'on n'avait plus droit. Du coup, tout était à ma charge. Là, voilà, avec ce que j'ai gagné, c'était difficile, mais j'ai pu les payer leurs études, parce que chez moi, les études sont payantes. Même si c'est public, c'est payant. Alors, il faut payer les livres, il faut acheter les cahiers, voilà. C'est vrai que l'école, on ne payait pas, mais les autres... Et là, ils ont tous allé, parce que comme j'étais en tant que l'aînée, je suis allée quand même loin dans les études. Les autres m'ont suivi, moitié-moitié. Hein. Il y a certains voilà, qui n'ont pas aimé, ils sont allés jusqu'au lycée. Du coup, ils pouvaient quand même voilà, avoir des petits travails pour pouvoir se prendre en charge. Et là, la sœur qui est partie à faire médecine, elle l'a eu, elle est retournée, elle a commencé à travailler. Et du coup, voilà. Au moment où vraiment, moi, je suis restée sans rien, c'est elle qui prenait en charge, la famille. Et celle aussi qui était après moi, qui était juste allée au collège, elle a pu avoir quand même un petit travail aussi, un petit emploi. Et là, elle travaillait, du coup, elle pouvait, elle, payer ses, en tout cas, se prendre en charge. Et là, moi, étant donné que j'étais une femme, hein, toute ma vie, j'étais une femme, j'aime pas dépendre de quelqu'un. Je suis, c'est vrai, hein, vraiment, je suis très, 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 très indépendante. Hein. J'aime pas, dans tous les domaines, j'aime pas dépendre de quelqu'un. Et là, je faisais du commerce. Et il y a deux enfants que j'avais eus parce que, voilà, le premier mari, du coup, on s'est quittés. 5 ans, après 5 ans de mariage, j'ai eu deux enfants, un garçon et une fille. Et après, je me suis remariée avec la personne, en tout cas le monsieur avec qui j'ai eu le reste, en tout cas, des enfants. Et là, les premiers, après leur bac, ils sont allés en France faire leurs études. Et déjà, j'ai payé leurs études. Hein, ils étaient à l'école française. Après aussi, ils sont venus en France. Là, je devais payer aussi leur scolarité. Et pour cela, je devais faire un commerce, me débrouiller, voilà. J'allais un peu aller dans le pays, les autres pays qui ne sont pas loin de mon pays, amener des choses, aussi bien les bricolages, les habits, aux femmes, aux hommes, prêts à porter. Et là, j'avais aussi une voiture qui travaillait, qui faisait le va-et-vient entre l'Éthiopie et mon pays. Et là, cette voiture aussi me rapportait en tout cas pas mal. Et là, tout ça, je payais pour la scolarité de mes enfants. Après, mes enfants, ouais, mes frères et sœurs, ils ont tous, en tout cas, voilà, ils étaient tous adultes et chacun avait plus ou moins quelque chose pour se prendre en charge. Et là, jusqu'à voilà, ma vie, j'ai très mal accepter hein, le fait que, alors que j'étais vraiment, 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 sans dire, en étant sincère, hein, comment j'ai travaillé, en plus, vraiment, j'étais directrice et je travaillais avec le salaire du chef de service. Et l'avantage en nature, les autres hein, avaient une voiture de service, le salaire, ils allaient une fois par an pour la formation continue, moi je ne l'ai pas eu. Et là, après, non seulement je suis partie sans avoir le temps que j'étais, c'était moi plus hein, qui était victime. Et après, sans aucune raison, m'arrêter de mon travail. Tout ça, c'était très, très dur, vraiment très, très dur. 3 ans, pour moi, c'était invivable. Et après, ma mère me dit, écoute ma fille, c'est pas la fin du monde. Hein. Et là, tu sais, elle me dit, de quoi tu es capable. Et là, maintenant, tu as élevé tes frères et sœurs, ils sont là à te prendre en charge. Et ton mari aussi est là pour, voilà, payer. Parce que moi, je voulais aussi, je sais la valeur des études. Et là, du coup, mes enfants, je les ai amenés à l'école française, là où les études étaient de qualité. Hein. Et là, elle m'a dit, écoute, hein, tu as semé, tu vas récolter, il n'y a pas de problème, tu as élevé tes frères et sœurs, tu as élevé tes enfants, tout est là maintenant, c'est pas la peine, voilà, c'est pas la peine de déprimer, c'est pas la peine, d'avoir ça, essaie de vivre. Du coup, je me suis, relevée, et après, je faisais un peu du commerce, et après, j'ai pu, jusqu'à là, on n'avait pas une maison, on habitait dans, des maisons de location. Et là, j'ai forcé mon mari, hein, et là, j'ai dit, il faut qu'on construise une maison parce qu'on a des enfants et demain, si quelque chose arrive, il faut que nos enfants aient quelque chose. Et là, du coup, on a construit, en tout cas, j'étais, chef de projet, hein. Et les gens qui travaillaient, mais du matin jusqu'au soir, j'étais là-dessus. En plus, je ne travaillais pas. Et là, on a construit vraiment une très grande maison. Et après, le petit tout dernier est né dans cette maison. Et après, j'ai vivé avec la belle famille du deuxième mari. C'était très compliqué parce qu'on était des communautés, en tout cas d'ethnies différentes. Hein. C'était très déjà, c'était pas accepté parce que j'étais une femme divorcée. J'étais en tout cas, c'était pas vraiment de cette ethnie-là. Très très compliqué parce que j'étais une femme éduquée. Du coup, la façon de m'habiller, les façons d'être ne les convenaient pas. C'était vraiment... Alors que moi, j'ai tout fait pour que... De nature, moi, j'aime pas de problèmes. J'aime pas de problèmes. Je dérange personne. Je ne veux pas qu'on me dérange. Mais vraiment, j'essaie de supporter parce que je ne supporte pas les problèmes. Je suis une personne pour la paix. J'aime vraiment que ça soit à l'intérieur de mon foyer, à l'extérieur. J'aime toujours qu'il n'y ait pas... J'aime pas de problèmes. J'évite au maximum, vraiment. Et là, la famille était vraiment dégoûtée. Mon mari n'avait pas de parents, mais ses tantes qui jouaient le rôle des parents, qui étaient très, très traditionnelles, très sévères. Et là, c'était très vite difficile de supporter ce qui m'est arrivé dans la scène professionnelle, dans la vie professionnelle. Et après, dans la vie privée, et on commençait à dire, tu as des filles, à leur neveu, on doit les exciser. Du coup, là, il faut, et tous les jours, ça parlait. La première aînée, après ça, elle avançait dans l'âge, après 3 ans de sa naissance, une autre fille est née, et là, c'est fini, la chose était sérieuse. Il faut coûte à coûte, il faut prévoir, il faut, en tout cas, elle parlait que de ça. Et là, la vie, en tout cas, entre nous, mon mari et moi, est devenue très, très compliquée. Très, très compliquée.
J'avais juste une toute petite question. C'était à quelle période? On est à quelle période environ? Parce qu'on a commencé en 90, 91. Et là, c'était juste pour voir un peu à quelle période on était, là, en fait.
Oui, dans les 2000, à partir de 2011.
OK.
Voilà. 2011. Vraiment, bien 2008, 2009, avec la petite, elle avait 6 ans, parce que l'excision, il y a 3 sortes d'excision, et les 3 types, et ce qui se passe dans mon pays, c'est le 3e type, pour cette ethnie aussi, hein, et la mienne aussi, et je peux vous dire aussi comment moi j'étais épargnée de ça, parce que ma mère, elle était d'une autre ethnie, qui ne pratiquait pas. C'est comme ça qu'on a eu la chance. Et mon père aussi, c'était un homme qui était vieux. Et il nous aimait. Il a eu des enfants presque la fin de son âge. Et du coup, il ne pensait pas à ça. Et il n'avait pas des sœurs et des parents qui pouvaient. Parce que je peux vous dire que l'excision est pratiquée, décidée et exécutée par les femmes. C'est les femmes qui s'occupent. Et si les femmes ne sont pas vraiment, ne sont pas intéressées, c'est sûr que les hommes, ils ne vont jamais dire de les faire, ils ne vont jamais dire oui ni non. Voilà. Du coup, ils sont là, ils sont indifférents. Mais ils participent de notre manière en disant que voilà, c'est quand même une cérémonie, il faut payer la personne excuseuse, la fête aussi, hein, ils font la fête. Et par là, on peut dire qu'ils participent, mais ils ne vont jamais obliger une femme à le faire, si la femme n'est pas d'accord.
Oui, c'est ça, ils prennent pas la responsabilité de l'excision, mais par contre, ils la soutiennent quand même, non?
Voilà.
Ils soutiennent l'excision.
Exactement, ouais, okay. Voilà. Ok.
Elle... J'avais une question, donc tu disais c'est une affaire de femme, comme on dit, c'est amené par la pression. Donc toi, du coup, tu te retrouves dans un foyer où tous les jours tu as des femmes qui te disent il faut exciser tes filles.
Oui, il faut exciser. Et en plus, hein, elle prenait même pas, elle me sous-estimait. Moi, c'est comme si j'étais porteuse, hein, une maman porteuse, mais j'étais pas, j'avais aucune importance. C'est le papa. Voilà, les enfants appartenaient au papa. Du coup, c'est avec le papa qu'on discutait et non la maman. La maman, alors ça, son avis, peu importe. Elle est d'accord, c'est tant mieux. Elle n'est pas d'accord, mais tant pis pour elle. Du coup, voilà, dans cette ambiance-là que j'ai vécu. À la fin, en 2012, c'est devenu vraiment très sérieux. Et après, c'est arrivé petit à petit, petit à petit. En 2015, ça a été décidé. Et là, parce que la grande avançait vers l'âge, quelques mois avant son 12e année, on a dit, là, au mois d'août, c'est fini, la décision est prise. On va exciser et ça va se passer. Du coup, comme on avait l'habitude d'aller en vacances, on a dit, mais tu ne bouges pas. Voilà, Amina, tu pars pas parce que, voilà, tes filles seront excisées. Du coup, ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai essayé de convaincre mon mari. Vraiment, on a largement discuté. Voilà, lui, il n'était pas là. Il était à l'étranger. De là-bas, il m'a appelé pour me dire la date. Et telle date, hein, le 1er août, le mois d'avril, le premier mois d'avril, qui m'appelle en me disant la date est prise pour le mois d'août. Et le mois d'août, et cette année, du coup, il était prévu normalement qu'on passe les vacances, hein, ailleurs, hein, mais il m'a dit il n'y a pas lieu de partir parce que la décision est prise, du coup les filles seront excisées.
Pardon, je te recoupe, ouais. Mais et en fait quand ce genre de décision est prise, alors toi ton avis, on a bien compris qu'il comptait, ouais. Pas, ça ne te regarde pas en fait, ouais, à quelque part,
voilà. Et aucune importance.
Et la position de l'enfant, en fait, est-ce que l'enfant il est...
On ne demande même pas. Ouais, on ne demande même pas, oui. Parce que d'abord, les enfants, en général, vous allez voir partout, hein, on dit, quand on amène les enfants, on va passer, on t'amène en vacances, on t'amène tel endroit, vous voyez, c'est-à-dire, on temporise parce qu'on sait que la petite fille ne va jamais accepter. Au contraire, d'avance même, elle sera angoissée, elle va pleurer, elle va peut-être, en tout cas... s'enfuir si elle peut ou aller, mais on cache vraiment, vraiment. Les enfants ne sont au courant de rien, vraiment de rien. Ni de qu'elles seront excisées, ni de temps, ni de nini. Alors là, aucune information donnée aux enfants. Il n'y a que les adultes qui savent. Et après, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, quand j'ai vu que vraiment ça n'allait pas du tout et que la chose était vraiment sérieuse, hein, on n'avait pas, c'est fini, voilà, mes filles ne pouvaient pas éviter. Et là, moi, j'ai fait pas mal de démarches, hein, au niveau des personnes, voilà, des institutions qui pouvaient vraiment, c'est pas comme ici, hein, il n'y a pas chez moi des institutions qui protègent les enfants ou la famille ou la femme et ainsi de suite. Et là, j'ai fait à ma manière, auprès des personnes que je connaissais, auprès, voilà. Moi, je faisais partie d'une association des femmes. Et là, cette association, la présidente, quand je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, hein, il y a ça, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Écoute, elle m'a dit, tu sais, si c'était entre nous, elle m'a dit, on pouvait vraiment peut-être sensibiliser, on allait voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là, elle m'a dit, c'est pas possible. Alors, elle m'a dit, Amina, je peux rien faire pour toi. qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je suis aussi voir quelqu'un, je n'ai pas un oncle proche, mais voilà, quelqu'un qui joue un peu lointain, mais qui peut quand même, qui était mon oncle, hein, parce que chez nous, vous savez, quand on se marie, il y a toujours quelqu'un de sexe masculin qui doit me représenter. Sinon, voilà, pour légaliser le mariage. Et là, du coup, ce monsieur-là, qui souvent était mon père, représentait le rôle de mon père, je suis allée le voir, j'ai dit, écoute, tonton, voilà, il y a ça, qu'est-ce que... Écoute, il m'a dit, ce sont ses enfants. Du coup, c'est le papa. Qu'est-ce que dit le papa? Mais le papa, il a dit, mais j'ai dit, voilà, ses tantes lui ont dit, il est d'accord. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, ma fille. Et du coup, de toute façon, il m'a dit, ça c'est la culture, c'est la tradition, toujours il y a eu lieu. Et là, il m'a dit, mais écoute, c'est... voilà, pourquoi tu veux être? Mais j'ai dit, mais et si mes filles meurent, je lui ai dit, et si elles meurent? Écoute, il m'a dit, mais déjà, le papa, quand il m'a dit ça, je lui ai dit ça, moi. J'ai dit, écoute, et si tes filles, tu n'as pas peur que tes filles meurent? Je lui ai dit, écoute, il m'a dit, toutes les femmes, ma mère, les autres avaient, mais si elles meurent, il m'a dit, c'est que leur heure est arrivée. Voilà. Et là, ça, c'est, voilà, déjà, c'était vraiment très, très, très dur hein, pour moi. Quand il m'a dit ça, j'ai pleuré vraiment pendant 3 jours. Et là, après, écoute, j'ai dit, vous savez, toute ma vie, j'ai tombé, je me relevais toute seule. Du coup, ça m'a vraiment... J'ai vécu, je peux dire, un peu dans difficulté. Et là, partout dans le domaine, à trouver ça, faire ça, régler ça. Et comme j'ai toujours réglé les choses toute seule, en étant même, voilà, sans avoir l'âge, tout ça m'a forgé à être encore plus indépendante et encore toujours dire, il y a toujours une solution. Non, j'ai dit, Amina, maintenant, tu es assez grande, hein. Assez grande de l'âge, assez grande intellectuellement. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, j'ai dit, que tu vas dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu auras quelque chose à faire. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée, quand lui aussi il m'a répondu comme ça, j'ai dit, je me suis retournée à moi-même, j'ai dit, écoute, voilà, tu décides. Du coup, mais débrouille-toi, Amina, tu fais ton visa et tu pars. Tu quittes le pays. Mmh.
You must pack out when things go wrong.
La décision de protéger tes filles en partant, mais c'est une décision très très lourde de conséquences et c'est un choix pas simple à faire. Mais tu voyais vraiment, il y avait vraiment aucune autre option possible. C'était il fallait vraiment partir, quoi.
Oui, 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 vraiment, vraiment. C'est-à-dire, je peux dire même, c'était la vie ou la mort. Voilà. Si tu restes, mais tes filles vont mourir. Avant que tes filles meurent, c'est toi qui vas mourir, parce que sûrement en m'opposant, j'ai dit à ces situations, en plus, de quelle manière cette belle famille qui m'a jamais vraiment, je peux dire sans exagérer, qu'elle pouvait même, elle souhaitait ma mort, parce qu'elles ont fait plusieurs démarches pour qu'il y ait divorce. Mais là, ça n'a pas marché. En plus, ce que je vais vous dire, quand je me suis mariée avec mon mari, il était un simple, hein. Je ne veux pas dire que voilà qu'il travaillait pas, mais il gagnait presque rien. Il faisait un petit vraiment emploi, mais un contrôleur. Et là, avec moi, mais il a grimpé jusqu'à être au plus haut, vraiment sommet, hein. Et là, plus il grimpait, il avait la promotion, il allait dans l'échelon vraiment très bon. Plus la tension était forte, la belle famille ne voulait plus que voilà. Si je peux dire entre guillemets, quand il était pauvre, hein, il était rien du tout. Du coup, voilà, c'était à moi de les. C'est pas un problème, hein. Mmh. Mais quand moi il a eu, là, je méritais pas. Mmh. Du coup, il fallait que voilà, qu'on le marie avec une autre femme, qui est peut-être voilà de leur famille proche, pour qu'elle puisse avoir ce confort. C'est comme si moi j'avais ce confort, je ne mérite pas. Là. Comme j'ai dit, si je m'oppose, mais ça va être, voilà, je serai peut-être battue, agressée, et après, tu vas même mourir avec tes enfants, et après, ils vont faire ce qu'elles veulent de tes enfants. Et là, j'ai dit non. Du coup, c'était vraiment le choix vital. Mm-hmm. Il fallait que je quitte si je voulais vraiment rester, en vie avec mes enfants. Et là, c'était vraiment très compliqué, parce que il fallait avoir un visa, et pour le visa, il fallait avoir vraiment des documents, et ces documents étaient très compliqués à avoir, toute seule, la responsabilité du papa, c'était très très, voilà, très compliqué, mais la chance que j'ai eue avant, pour les vacances, on devait venir, parce qu'avant ça, on était venu en France avec mes enfants. On a eu, parce que le papa travaillait ailleurs que dans le pays, et là on est resté, à moi on a eu le visa, et après ça c'était le premier choix, parce que si j'avais pas déjà obtenu un temps bien avant, en tout cas le jour de visa, un visa, je crois pas que j'allais avoir, parce que vraiment avoir un visa du consulat de France dans mon pays, c'est très compliqué. Là j'ai eu la chance, j'avais eu 6 mois. Et du coup, c'était, voilà, facile à avoir. Et après, j'ai eu un document qui était vraiment aussi là, très important pour avoir le visa, la responsabilité. où les deux parents doivent signer ensemble devant une autorité du pays pour dire que voilà, l'un confie la responsabilité à l'autre pour pouvoir voyager. Et là, on avait fait ça pour pouvoir venir en vacances, qui n'a pas réalisé parce que voilà, il y avait en tout cas un petit voilà, un imprévu. Et là, ces papiers-là, je les gardais, moi. Et c'était durant l'année. C'est toujours dans 2015, début 2015, que j'avais eu. C'est ça qui m'a permis, ce sont ces deux, voilà, ces deux documents, en tout cas ces deux chances, ces deux situations qui m'ont permis à avoir le visa. Pour comment ça s'appelle aussi, il faut avoir de l'argent dans le compte bancaire. Hein, les documents qu'on délivre, c'est ça, un relevé bancaire. Et ça aussi, c'était ceux de mon mari que j'avais préparé, parce que j'avais préparé le dossier pour pouvoir venir les vacances scolaires de début de l'année. Et là, comme tous les dossiers étaient prêts, et là, pourquoi aussi mon mari ne sait rien, il ne s'est pas douté de quelque chose, parce que j'étais toujours une femme, en tout cas, les choses étaient bien, il a eu confiance, parce que d'abord, c'est moi qui faisais toutes les démarches, je suis bien, voilà, toutes les démarches concernant la famille. Et pour le après aussi, je n'ai jamais failli. Voilà, il avait confiance en moi. On avait voilà tout ce que je faisais, je lui disais. Du coup, j'ai pas eu de soupçons. Il s'est jamais dit que j'allais vraiment faire ça. Et après voilà, j'ai présenté. J'avais pas vraiment l'espoir. Je peux dire, j'avais vraiment, j'étais très inquiète parce que je disais, est-ce que ça va marcher? Mais après, j'ai eu le courage de présenter tout ça. Je suis allée, j'ai obtenu. J'ai eu 20 jours. 20 jours. On m'a même pas donné. Et là, quand j'ai dit là-bas à la personne, moi déjà, même un jour, hein, c'est, l'essentiel, c'est de quitter, de monter dans l'avion, de quitter. Mais c'était, voilà, quand j'ai posé à la personne qui m'a donné, j'ai dit, mais pourquoi vous me donnez 20 jours? Alors que j'ai dit auparavant, j'ai eu 6 mois, il m'a dit, écoutez, la prochaine fois, il m'a dit, la prochaine fois, vous aurez madame, cette fois-ci, voilà, mais il n'y a pas de... J'ai dit, mais au fond de moi, je disais, mais est-ce qu'il y aura la prochaine fois, hein? J'ai dit, c'est vrai, je vous assure, hein, ce qui est arrivé dans ma tête. Après, j'ai eu, et en ce qui concerne le moyen de transport, après, c'est très cher aussi, et quand j'avais... On était nombreux, hein, on était 5 personnes à prendre l'avion. Là, c'était vraiment... En plus, ils étaient tous presque... Voilà, plus de 3 ans. C'est comme un adulte, hein. Mm-hmm. Et là, tous, ils étaient plus de... Ils avaient plus de 3 ans. Et c'était vraiment 4 000 euros, hein, l'avion. Et après aussi, il fallait avoir, hein, quelque chose aussi, un peu d'argent dans la main, parce que je ne savais pas ce qui m'attendait ici, mm-hmm, aussi non plus. Et tout cela, mes frères et sœurs, en tout cas, m'ont aidé. Et là, il y a aussi une partie que j'ai dû emprunter. Et après, voilà, j'ai fait ma valise. Et là, le jour où on partait, mon mari était parti avec son oncle pour une affaire familiale. Hein, et là, souvent, on le faisait parce que du coup, pour la famille, il était devenu voilà, quelqu'un qui avait quand même un moyen parmi voilà, les autres. Du coup, chaque fois qu'il y avait un problème familial à régler, on l'amenait. Et là, 3 jours, il était parti. Et c'est de 3 jours-là que j'ai dû concéder ma date de voyage. Et après, avec mes enfants, voilà, on a quitté. Et jusqu'à que je monte dans l'avion, je vous assure, je ne peux pas vraiment vous décrire ce que je vivais. L'angoisse, vraiment la peur dans laquelle j'étais, je vous assure, c'est indécent, vraiment. Et là, j'arrivais même pas à respirer, tellement j'étais vraiment. Et après, voilà, quand l'avion a décollé, là, je peux vous dire que vraiment la tension a bien diminué. Et à ce moment-là, j'ai dit, enfin, mes enfants et moi, nous serons, voilà, en vie, enfin, voilà, j'ai sauvé mes enfants. Et là, je suis arrivée, oui.
Et pardon, et alors là, en fait, toute cette préparation, donc c'était toi, tu l'as fait quasi seule, en fait. Tu avais un peu de soutien d'une partie de ta famille. Mais, et les enfants, en fait, ils comprenaient ce qui se passait, en fait. Les filles, par exemple, savaient que tu les sauvais, finalement.
Non. Non, non, parce que j'avais peur. C'est la grande, hein, la grande des deux filles. Et elle était trop proche de son papa. Du coup, j'avais peur. Et en plus, c'est quelqu'un... Voilà, elle parle. Même si je lui ai dit, c'est un secret. Elle a toujours tendance à raconter. Et là, j'avais peur. Du coup, je leur ai dit, on part en vacances. Okay. Et voilà, je les ai amenés en disant, on part en vacances. Et du coup, c'est comme ça mais ils n'étaient pas au courant parce que je ne pouvais pas. Sinon, j'avais peur que voilà, j'échoue dans mon projet. Et c'est sûr, si un moment j'étais surpris, je vous assure, qu'est-ce que j'allais, c'est fini. C'est sûr, on allait m'arracher mes enfants. Et moi, je ne sais même pas si j'allais survivre à ce qu'on allait me faire. Et après, voilà, j'allais plus exister. Et mes enfants, voilà, allaient subir cette situation, cet acte qui est, voilà, mortel et vraiment inhumain, voilà. Et après, je suis arrivée, voilà, à Paris. Et après, j'ai dû prendre le... arriver après, voilà, à Lyon. Et après, dès là, mon aventure a commencé. En étant voilà, ici, et du coup, moi, ce qui m'a donné la force, c'est d'arriver, parce que je savais qu'en tout cas ici, rien de mal n'allait m'arriver. Voilà. Je me suis dit, l'essentiel, c'est que tu arrives sain et sauf avec tes enfants. Et le reste, mais j'étais toujours... C'est comme si moi, les difficultés ne me font pas peur. J'ai pas peur des difficultés, oui. Franchement, voilà, j'ai jamais aussi... J'ai dit, j'ai pas la paresse. Du coup, j'étais toujours une personne qui était toujours active, qui était toujours... qui travaillait les difficultés, qu'est-ce que je vais faire, et voilà, est-ce que je serai fatiguée, la fatigue, le truc, ça, je ne pense pas. Je suis prêt à tout faire, voilà. Et du coup, je me disais, j'ai pas dit un moment, et là, cette force m'a donné à faire. C'est vrai que c'était pas aussi trop compliqué. Hein. Quand je suis arrivée, je suis restée 2 semaines dans un hôtel, et après 1 semaine chez voilà quelqu'un. J'ai trouvé voilà par chance quelqu'un en tout cas qui avait voilà un ami. J'avais un ami qui est en Suède. Et qui avait contacté quelqu'un qui est en France, hein, qui connaissait, du coup, qui m'a amené voilà, chez quelqu'un 1 semaine. J'ai vécu là-bas. Et après, la personne, en tout cas, que mon ami avait contacté, m'a amené à la préfecture. Après, j'ai fait... ça a commencé. On m'a donné, en tout cas, toutes les démarches, la première voilà, étape. Et après, quelques jours après, quelques semaines après, on m'a donné le récépissé, le premier récépissé d'un mois. Et après, 2-3 mois, et puis un mois après, on m'a donné un logement, en tout cas un centre hein, d'hébergement de transit, en attendant, voilà. Et après un mois, j'ai dû aller dans un banlieue de Lyon. Et là-bas, je démarre jusqu'à depuis. Et après, j'ai attendu la convocation pendant 13 mois. 13 mois pour être convoqué. Et je me suis rendue à la convocation. Avant ça, j'étais convoquée le 8, et le 1er, j'ai eu un accident, je suis tombée, moi qui marchais, parce que j'avais justement vraiment un grand souci avec la fille, la plus grande des filles, pour laquelle je suis venue, en tout cas pour protéger. Elle était très... ça n'allait pas du tout. Et là, le jour, elle était placée dans dans une institution. Et là, de là-bas, il y a eu un souci. On a dit non. Du coup, on a dû la renvoyer chez moi. Et il fallait lui trouver. On m'a renvoyé. Alors qu'elle était inscrite là-bas, au collège. C'était la rentrée 2016. c'est la rentrée de 2016 exactement. Après, il fallait trouver un autre collège. On m'appelle en me disant 3 jours avant la rentrée, il faut que vous trouviez un autre collège pour votre fille. Du coup, votre fille, d'abord, on me l'a amenée, sans vraiment, alors que pour qu'elle aille là-bas, on a fait des démarches. Il y a eu réunion entre plusieurs, voilà, moi et les autres représentants des. à la maison des rangs, par exemple, la responsable, en tout cas comme on appelle la maison des rangs qui est la protection de l'enfance, voilà, et entre les représentants de cette institution, maison de l'enfance, voilà, quelque part aussi banlieue de Lyon, on me l'amène, et il n'y a pas eu cette démarche-là pour le retour. Alors pour le départ, il y a eu. On me dit trouver. Qu'est-ce que je savais pas quoi faire. Et là, j'étais dans l'impasse, vraiment. Et j'avais vraiment plusieurs rendez-vous. Et là, je me disais, j'ai marché. Je suis allée voir à l'arrêt de bus à quelle heure il venait. Quand j'ai vu que ça prenait plus du temps, j'ai dit, alors, Alain Amina, marche à pied, vas-y, pour aller plus vite, pour pouvoir gagner, après partir aussi à notre rendez-vous. Moi qui me parlais dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. En marchant comme ça, à peine je voulais traverser, et je me suis écroulée, je suis tombée en plein dans la route. Et je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai eu. Je sais que moi, je suis, voilà, il y avait marche-piéton, je voulais traverser, j'étais à peine à moitié de marche-piéton, je suis tombée. Et après, quand je suis tombée, vraiment, mes quatre dents de devant étaient tous déplacées. Il y a eu un choc, vraiment. Quand je suis tombée, la seule chose dont je me souviens, j'ai eu un bruit terrible. C'est comme s'il y avait une montagne qui s'écroulait. Et là, après combien de temps, et après ça, je ne voyais plus rien. Quand je me suis levée, après, je regardais autour de moi, j'étais toute seule dans la route. Après, je regardais comme ça, j'ai dit, oh mon Dieu, mais j'ai dit, écoute, Amina, il n'y avait personne qui m'a secouru. Je me dis, mais tu vas te faire écraser par une voiture, alors lève-toi. Je me suis levée, et là, j'étais blessée, non seulement. Quand je fais comme ça, parce que quand je touchais un peu ma langue, mes dents n'étaient pas là où elles étaient. Et là, j'ai fait comme ça, il n'y avait pas de sang. Et là, je vois mes mains qui saignaient, après mon genou. Je me suis levée, je marchais doucement, je suis sortie de la route. Après, j'étais à côté de là où j'habite. Doucement, je regardais comme ça, personne n'est venu me lever, m'aider. Et là, j'ai marché doucement, j'ai arrivé au bureau de là où voilà, j'habite. Là, quand je suis arrivée là-bas, je ne pouvais plus. J'avais déjà le vertige, le vertige. Là, je me suis assise et après ça, je ne voyais plus rien. Après, on m'a amenée à l'hôpital, à l'urgence. Et heureusement, mes dents étaient déplacées, mais avec anesthésie, on a essayé de remettre à leur place. Elles étaient vraiment rentrées à l'intérieur. Et là, on a essayé de remettre, on m'a mis un appareil. Et le 8, il fallait aller à la convocation de l'OFRA. Et là, les différentes assistantes sociales qui m'accompagnent m'ont dit, écoute, hein, on peut reporter. J'ai dit non, je ne reporte pas. J'ai déjà attendu assez et là maintenant j'ai dit non, j'attends pas, je vais partir comme ça. 3 jours j'étais au lit, 3 jours je ne me suis pas allée, alors que jamais moi je mets au lit, vraiment dans ma vie, hein, jamais. Je me souviens en 97 j'étais aussi très très malade, j'avais eu juste une infection je crois au niveau du rein, mais sinon de ma vie, voilà, malgré que j'étais vous voyez, surchargée par ma responsabilité, c'était rare que je sois malade et que je sois au lit. Et là, vous voyez, 3 jours, je n'ai pas bougé parce que tout était gonflé après. Mmh. Les lèvres, le dent, je ne mangeais rien. J'étais vraiment... Le 8, j'étais épuisée. Je n'arrivais même pas à marcher, mais je suis allée. Je me suis rendue à l'OFRA et après, voilà, ça, je semblais en tout cas l'officier des protections... n'était pas, en tout cas c'était une femme, mais pas trop agréable, hein, pas trop, franchement, je sais pas, elle m'a pas mis à l'aise. En tout cas, voilà, elle m'a posé les questions, pas en tout cas, concernant ma récit, hein, elle m'a posé, c'était pendant 1-2 heures, hein, qu'elle m'avait, et c'était des parcours, hein, scolaires plus. Un parcours scolaire et professionnel, plus. Et presque une demi-heure, je crois, sur mon récit réellement, proprement, pour lequel moi, j'ai demandé la protection. Après, j'ai pensé en tout cas que c'était bien passé, mais après 13 mois d'attente, j'ai encore eu la réponse, et la réponse était le rejet.
Alors, pour quand même que les gens qui nous écoutent arrivent à se rendre compte de tout ça, c'est que
tu sauves ta vie et celle de tes filles, clairement, voilà, tu arrives en France, et là, en fait, on t'interroge finalement, donc, comme tu disais, plus sur ton parcours professionnel et scolaire, ce qui est quand même assez secondaire dans ce cadre-là, et on attend 13 mois pour te dire finalement, c'est non, et votre histoire, en fait, on n'y croit pas, quoi, c'est un peu l'idée.
Franchement, voilà, est-ce que vraiment clairement dit, parce que la réponse même, dans la rédaction de la réponse, hein, il y avait diverses erreurs, hein, même si, voilà, les erreurs, certaines n'étaient pas très, je peux dire, très importantes. Pour moi, c'était important, parce que si moi, j'avais fait ça, on n'allait pas, mais en tout cas, ça n'allait pas passer. On allait me condamner. En tout cas, voilà, pour cela, j'allais être, je vais dire, entre guillemets, puni. Hein. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs, pour te dire. Et après, il était dit, vu le parcours scolaire et le parcours professionnel, madame n'est pas vraiment stigmatisée.
C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que parce que tu as pu faire des études et tu as pu avoir un parcours scolaire et que tu as offert des études à tes enfants finalement pour qu'eux aussi puissent s'en sortir comme toi, on part du principe que du coup, c'est pas possible qu'ils soient, que tes filles soient excisées en fait. C'est un peu l'idée qu'on sous-entend, quoi.
On dirait, oui, parce que c'est ça. Mais les assistantes sociales qui m'accompagnaient et moi-même, nous avons pas compris vraiment où était le problème, parce qu'on n'a pas dit ce que... En plus, on a... Voilà, la personne, en tout cas, ou je ne sais pas, hein, c'est qui... Hein, est-ce que c'est vraiment celle qui m'a entendu ou les autres qui ont rédigé, je ne sais pas, mais la rédaction... Au niveau même de la rédaction, il y avait beaucoup de problèmes, hein. Il y avait des erreurs, c'était mal rédigé, au lieu de... Mon pays n'était pas vraiment... C'était un autre pays qui m'a été donné à la place de... oui, un autre... Hein. Et après, il y avait mélange de tout, vraiment, alors que 13 mois, ils l'ont pris pour rédiger cette réponse. Et étant, je vous assure, et là j'étais choquée par comment ça a été rédigé et vraiment au niveau de tout, hein, la forme, le fond et tout. Et là, j'étais franchement, déjà le jour où j'étais devant cet officier de protection, c'est comme si j'étais devant les autorités de mon pays. Parce que vu l'ambiance, c'était pas vraiment humain, c'était pas accueillant, parce que c'est vrai, je suis d'accord à ce qu'elle fasse son travail comme il faut, mais minimum d'humanité, parce que vu l'OFRA, c'est pas une administration comme les autres. On gère des êtres humains, les êtres humains qui sont venus, venus protéger leur vie et la vie de leurs enfants. Minimum d'humanité, quand même, il les faut, et elle pouvait l'avoir quand même. Et là, après... Quand j'ai vu cette réponse, ça m'a touchée, d'abord parce que j'avais l'espoir, puisque ça a pris autant de temps, je ne croyais pas. Et comme mes enfants même, hein, tout petites, ils l'ont dit, mais maman, si c'est pour dire non, pourquoi ils l'ont entendu autant? Je vous assure, hein, c'est qu'ils l'ont dit, la première chose. Et moi, pour moi, ce n'était pas du tout vraiment acceptable. C'était pas humain, c'était pas, voilà, parce qu'on pouvait quand même me répondre, les autres, il y a des gens, des personnes qui ont 10 jours, en 20 jours, en un mois, 13 mois pour me dire non, ça je n'arrive pas à accepter et je n'arrive pas à expliquer, jusqu'aujourd'hui, et je ne pourrai jamais l'expliquer. Et là, et je ne pensais pas comme ça que l'administration française était comme ça, voilà. Parce que voilà, la France, pour moi, c'était l'humanité, c'était bien sûr la démocratie, la liberté. Il y avait quand même le minimum, et ce que je n'avais pas chez moi. Et là, après, voilà, la réponse est arrivée. Et après, j'ai dû faire l'appel, hein, le recours. Et le recours, j'attends jusqu'à aujourd'hui. Et pour retourner encore à la décision, comme je disais, alors, c'est comme si je ne sais pas si vous voulez pourquoi j'ai étudié. Et étant donné que j'ai étudié, que j'ai pu, voilà. Et la personne, hein, ne sait pas comment j'ai eu le travail, moi. C'est vrai que j'avais un travail. J'étais directrice déjà, j'ai dit, je n'avais pas le salaire d'une directrice. Directrice pour faire le travail, hein, mais pas pour avoir le droit, les avantages qui vont avec ces postes-là. Et après, et comment je l'ai eu déjà? Parce que je lui avais dit, en plus, j'ai dit, c'est quelqu'un, voilà, le frère de mon premier mari, Et là, quelqu'un aussi, voilà, qui connaissait mon papa. Comme j'étais là, mon papa était mort et j'élevais, j'étais orpheline et mes frères et sœurs, j'avais la charge. Et la personne, voilà, les deux messieurs sont partis demander à l'époque un ministre qui était à tutelle de cette institution-là où je travaillais, qui ont sensibilisé en disant que cette pauvre-là, elle est orpheline et elle doit, et du coup, voilà, c'est comme si même, une fois, on peut dire hein, qu'ils l'ont mendié pour que je puisse avoir travail et non pas mon diplôme, alors que j'étais diplômée et je peux dire que je faisais partie des rares personnes qui pouvaient avoir ce diplôme. Et après, et j'ai dit tout ça hein, à la police, en tout cas à la personne, en tout cas des, voilà, qui m'a interviewée. Et après, elle s'est permis à me répondre en disant que vu le parcours et vu ça, j'ai franchement, voilà, j'ai pas compris. Et après, voilà, depuis, je suis dans le recours et la convocation, je l'avais eue. Même voilà, après 5 mois, je crois, voilà, à la suite de la réponse. Et ça a été reporté parce qu'il y avait la grève. Et du coup, l'aventure n'est pas encore terminée. Je suis dans l'aventure. Et je ne sais pas aussi quand j'aurai la prochaine reconvocation. Et après la prochaine reconvocation, quelle va être la réponse? Je n'ai aucune idée. Et du coup, je suis dans l'attente et je suis dans l'aventure. Et l'aventure continue. Je suis avec mes enfants qui ont vraiment... voilà, qui n'arrivent pas à supporter cette attente, qui n'arrivent pas parce que c'est normal, je le comprends. Ce sont des enfants. Et là, c'est vrai, moi, j'avais l'habitude. Hein, je peux dire, moi, dans ma vie, en étant petite, voilà, j'avais quoi manger, j'avais un toit, mais mes enfants, par contre, ils étaient dans le confort. Et aujourd'hui, là où on est, c'est loin d'être, hein, voilà, vraiment un endroit agréable pour les enfants. Et mes enfants, hein, vraiment, et mon souci jour et nuit, c'est de perdre mes enfants. Alors que moi, je suis venue pour protéger mes enfants, et là, perte part parce que... Il me dit souvent, voilà, c'est quand qu'on aura, c'est quand qu'on va sortir de cet endroit, c'est quand qu'on va s'installer, c'est quand qu'on va, voilà, il y a un grand, grand souci. Et là, je suis vraiment, je suis obligée à attendre parce que je n'ai pas le choix et je n'ai pas où aller. Mais c'est très, très, très difficile à supporter cette attente qui est vraiment... un terminal qui est vraiment, vraiment insupportable. Voilà.
J'avais une question aussi, enfin, peut-être qu'on en a parlé, mais tes enfants, en fait, enfin, comment ils appréhendent la situation? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, chacune, chacun sait que, en fait, ce que t'as fait, c'était pour les sauver? Que tes filles, elles ont échappé à une potentielle mort, en tout cas à une violence physique horrible, l'excision. Enfin, quel est ce rapport de tes enfants et de toi par rapport à ça, en fait? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, t'as fui un pays, t'as fui une famille, t'as pris ton courage à deux mains, et c'est impressionnant, pour les protéger. Est-ce qu'ils sont conscients de ça, en fait?
Oui, les grands, ils sont conscients. Les grands qui étaient venus bien avant moi pour les études, hein, ils sont conscients. Les autres aussi, mais il y a vraiment une qui est très... voilà, elle est consciente. Elle est consciente du danger, d'abord, de l'acte. Elle est aussi consciente de ce que j'ai fait. Mais elle vit dans une situation, voilà, d'adolescent et de là où nous sommes et de cette attente. Tout cela a vraiment, je peux dire, a fait vraiment à le dessus de la reconnaissance de ce que j'ai fait. Vraiment, moi, pour ma part, moi, je suis fière, vraiment très fière de moi. Et voilà, de ce que j'ai fait. Franchement, ouais. Maintenant, je peux dire, hein, toute ma vie, je sais, quand j'ai, avec le recul, en étant ici, je vous assure que j'ai eu beaucoup de moments d'être fière de moi. Et avant, je voyais pas tout cela, parce que comment j'ai fait, voilà, élever mes cinq frères et sœurs, les éduquer, tous éduqués, même si, voilà, un niveau différent, mais aujourd'hui, ils sont tous... je les ai élevés, toutes seules, avec ma mère qui était au foyer, avec mon petit salaire, et j'ai jamais pensé à moi. C'est vrai que pour être en vie, pour continuer ça, il fallait que je pense, mais ça ne m'a jamais arrivé. Et heureusement, la nature, mon Seigneur m'a aidé, parce que j'étais vraiment souvent très fatiguée, parce que je pensais trop, j'ai réfléchi beaucoup, avec voilà pourquoi je n'avais pas à côté de moi, au niveau, exemple de la vie professionnelle, moi je n'avais presque rien, alors que j'ai travaillé, j'avais le diplôme, j'étais vraiment sérieuse, j'allais le matin, je revenais le soir, des fois vraiment je n'arrivais même pas à manger, et il n'y a pas de temps de pause chez nous, hein, on rentre chez nous, mais après, parce que là où j'étais, il fallait faire le travail, la facturation, c'était la direction commerciale, et là, vraiment, il fallait faire des choses. Et là aussi, pour pouvoir vraiment garder, et j'avais aussi, le soir, j'ai dit, travaille comme ça, tu auras peut-être, voilà, ils auront pitié de toi, tu auras tes droits. Non, plus je faisais, plus que j'étais, c'est comme si ça retournait contre moi, hein, en étant vraiment... Et là, je peux dire, je n'ai pas eu le temps de penser à moi. Je n'ai pas eu aussi, je crois, l'occasion de penser à moi. Mais je suis fière parce que j'ai élevé mes frères et sœurs qui sont là, voilà, tous qui puissent aujourd'hui, hein, chacun quelque chose pour gagner sa vie. Et après, mes enfants, éduquer et les élever comme il faut aussi, de les épargner de ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais raconté à mes enfants tout ce que j'ai vécu, hein, toute l'injustice que j'ai eue au niveau privé, au niveau familial, au niveau professionnel. Je n'ai jamais raconté, parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi, sans être vraiment psychologue, je disais dans ma tête, peut-être si je leur dis ça, ils seront touchés, ils vont se poser. Du coup, j'ai toujours voulu protéger mes enfants, mais pas moi. Et moi, est-ce que j'étais faite pour supporter ça? Je ne sais pas, j'ai supporté. Et là, c'est aujourd'hui, j'ai commencé un peu, tout petit, pas ceux qui sont vraiment très... très violente, mais certains, à raconter à ma première fille. De temps en temps, je commence à parler avec elle, parce qu'il y a certaines choses qu'elle n'arrive pas à supporter, à les garder ou à partir avec. Hein. J'ai dit quand même, c'est mieux, parce que de temps, l'occasion se présente quand je dis, voilà, on parle de quelque chose arrive, j'ai dit, vous savez, moi j'ai fait ça pour vous sauver, pour vous faire ça, pour faire, voilà. Ma vie n'était pas si facile. n'était pas, voilà. Moi, j'ai dit, je ne sais même pas que je jouais. Hein. Durant mon enfance, je n'ai pas joué. J'étais toujours... je m'occupais de mes petits frères, j'aidais ma mère. Et j'étudiais. Moi, j'aimais étudier. Et j'aimais toujours être la meilleure. Partout la meilleure. Vraiment. Que, voilà, que mes enfants doivent être vraiment bien cadrés. Qu'on ne parle pas de mes enfants, qu'on ne parle pas de mes frères et sœurs, qu'on ne fait pas ça. Et toujours... à côté, toujours avec mes frères et sœurs, mes amis étaient eux, mes enfants, toujours ensemble, et tout est toi d'être parfait. Et là, maintenant, je me rends compte que je suis épuisée, vraiment épuisée, et là, la seule chose à laquelle je pense, c'est de me reposer, vraiment me reposer, et j'espère vraiment... Là, maintenant, avec CNDA, ça va marcher et que je pourrai vraiment me reposer. Parce que j'ai dit à un certain moment, mais quand vraiment ça va arriver et que voilà, si la réponse est positive, est-ce que je vais me lever? Parce que vraiment, si j'ai tombé, j'ai dit, est-ce que vraiment je pourrais, mais je suis tellement épuisée, est-ce que je pourrais me lever? Est-ce que je vais continuer toujours à être active comme je suis maintenant? Je n'ai aucune idée. Mais j'ai envie, vraiment, je peux dire, j'ai soif, j'ai voilà, envie de me reposer.
Ben, je crois que... Pardon.
Non, moi j'avais une dernière question, pardon, c'était... Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un peu aidé ou entouré pour toutes ces démarches? Est-ce qu'il y a des gens qui te soutiennent? Est-ce qu'il y a des associations qui sont un peu là pour toi? Enfin, ouais. Enfin, soit tu n'es pas obligé de les citer, mais ouais, est-ce que c'est... Voilà.
Oui, c'est que j'avais oublié aussi. Hein. C'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai rencontré aussi hein, beaucoup de gens qui sont vraiment reconnaissants. Hein. Beaucoup de gens qui sont aussi sont devenus amis, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Franchement, je ne peux pas dire... Hein, c'est vrai, il ne fallait pas que je termine cette émission sans vraiment remercier. C'est vrai, hein, c'est vraiment merci à vous de me poser cette question. J'ai eu beaucoup de gens... Parce que, voilà, comme je te disais, dans mon combat, dans mes combats, durant toute ma vie, moi, même chez moi, j'étais dans une association féminine, où on faisait des actions pour aider les enfants orphelins, les femmes aussi, des veuves qui élevaient toutes seules les enfants. J'ai toujours aimé venir en aide des gens qui sont faibles. Des vieilles qui n'ont pas d'enfants et des petits-enfants. Surtout, je suis très, très touchée par les enfants. Moi. La situation des enfants, je ne supporte pas qu'un enfant voilà, est dans une situation et aussi les mamans qui élèvent les enfants toutes seules. Quand je suis arrivée ici, je fais partie, bien sûr, j'ai intégré une association ici qui accompagne voilà, les femmes dans les démarches, en tout cas, de l'excision, le mariage forcé, voilà. Et là, cette association, dans cette association, je fais beaucoup depuis 2015 que je suis, et elle m'a appris beaucoup de choses, et aussi, moi aussi, je leur ai donné pas mal d'informations, et pas mal d'aide aussi, hein. Je peux dire, hein, on s'est aidé voilà, mutuellement. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment... Je suis très contente hein, d'avoir parti, en tout cas faire partie de cette association. Et là-bas, il y avait des gens aussi, pourquoi pas, là où j'ai vu aussi des assistants sociaux qui sont vraiment, voilà, hors commun, on peut dire, qui sont très, voilà, très gentils, en plus de leur travail, qui sont humaines, qui sont, voilà. Et après, j'ai fait aussi, auprès de notre association, j'ai fait des bénévolats. Et là, voilà, durant à faire des actions en tout cas, puisque l'association elle fait beaucoup d'actions, il y a des repas partagés, il y a aussi mes enfants aussi pour les activités scolaires, hein, ils sont inscrits là-bas. Du coup, je fais partie des membres en tout cas, voilà, des membres d'honneur, on dit, des associations. Je participe à des assemblées générales pour les trucs, mais et là-bas. Ces institutions m'ont appris, m'ont donné l'occasion de faire des réseaux. J'ai pu connaître des hommes et des femmes qui m'ont donné quand même, qui me soutiennent énormément, hein, énormément, d'une relation amicale, professionnelle, quand j'ai besoin. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup. Et c'est ça, je peux vous dire, qui m'ont aussi aidé à supporter ces situations qui sont insupportables. Franchement, j'ai fait beaucoup, voilà, au niveau aussi les jours des j'ai fait aussi hein, beaucoup d'actions. Par exemple, pour la fête de quartier, j'ai fait un petit sketch. Et aussi la journée internationale de la femme aussi, j'ai fait avec une autre femme et moi, deux femmes, on a fait aussi des petits, en tout cas, voilà, des scènes, des différentes scènes, des petits scénettes, comme on disait, différentes, qui avaient différents objectifs. Et là, voilà, j'ai... En tout cas, je peux dire, ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a poussé aussi à faire tout cela, c'est... Et là, j'ai eu la reconnaissance de ce que j'ai fait. Voilà, des gens qui reconnaissent ce que j'ai fait, mais vraiment qui m'ont donné à avoir confiance encore plus en moi, à ce que je connaissais, à ce que je pouvais faire. J'ai toujours voulu être au service des autres, mais quand on vous reconnaît ce que vous faites, c'est encore, encore plus, encore, voilà. C'est quand on valorise ce que vous faites, ça donne encore envie, ça donne la force pour continuer. Et là, voilà ce que j'ai fait, vous dire merci à vous aussi. Hein. J'ai eu l'occasion de vous connaître aussi. Une équipe qui est vraiment, voilà, avec qui sincèrement, depuis la fin dernière, on a eu l'occasion de se connaître, mais depuis, pour moi maintenant, vous êtes des amis vraiment, voilà, des gens très agréables avec qui, du coup, je peux dire que franchement, plus que mon pays là où je suis née, c'est ici, je peux dire que j'ai eu plus de personnes qui aujourd'hui que j'estime que j'ai voilà que j'aime beaucoup et que je voulais bien un jour rencontrer dans un moment différent que c'est là pour pouvoir partager des moments voilà conviviaux ensemble. Voilà. Merci à vous en tout cas.
Merci à toi Amina on peut terminer par quoi ? Par te souhaiter une réponse rapide et positive.
Oui, merci.
De l'OPRA.
De CDA.
Et ensuite te souhaiter quoi ? Du repos, que tu puisses te reposer.
Ouais.
Et bon.
Merci beaucoup.
Merci à toi beaucoup.
Merci à vous. Et je suis contente de faire votre connaissance. Et voilà, espérons que, voilà, que ça va durer, qu'on pourra en tout cas parler encore, peut-être pourquoi pas, mais dire autre sujet que celui-là. Oui, de parler de la, voilà, de la démarche après, des projets après cette réponse avec mes enfants, vous montrer l'occasion de connaître mes enfants. Et qu'un jour, je pourrais vous inviter chez moi et manger ensemble et partager ces moments. C'est vrai, hein, c'est vraiment, voilà.
Et ce sera avec un très grand plaisir.
Et alors, c'est peut-être pour élargir un tout petit peu, mais on peut avoir une pensée, alors je ne sais pas si c'est suffisant, mais pour toutes les personnes qui, effectivement, fuient des situations dramatiques, qui ne sont pas que des numéros sur un papier administratif, qui sont des humains, qui ont un parcours, qui ont vécu des choses difficiles. Et que bah, je pense qu'il faut continuer de le dire et de soutenir ces gens-là parce qu'on ne choisit pas de fuir des choses comme ça simplement. C'est très compliqué et merci et bravo à vous parce que vous faites preuve de courage incroyable.
Juste dire aussi aux autres, hein, aux Françaises et aux Français, dire que ces gens-là, y compris hein, moi-même, nous venons. Nous n'emmenons pas que des problèmes, hein. Nous fouillons les problèmes, mais on ne vient pas avec des problèmes. Au contraire, on vient ici pour pouvoir vivre vraiment dans la paix. Et aussi, on vient avec des cultures, avec des valeurs, avec des connaissances, avec le savoir-vivre, le savoir-être, qui sont, je crois, aussi, ne sont pas que négatifs, hein, qui sont positifs. Hein, pour la culture, pour en tout cas la communauté, la population française. Vraiment, je dirais, ayez confiance en nous. Et nous sommes des personnes qui souhaitent de vivre et vraiment vraiment vivre dans la joie avec et intégrer ces pays-là parce que déjà. Je peux dire, beaucoup de personnes, moi déjà j'ai vécu dans la les valeurs, la culture française, hein, puisque j'ai pu, voilà, à mon temps, ceux qui m'enseignaient, moi, ce sont des Français, des Françaises, hein, mes professeurs à l'époque, c'est vrai, maintenant c'est devenu, voilà, par la suite, hein, en tout cas des gens du pays, mais avant, et par là, et après aussi en ayant des amis et tout, je connaissais déjà, hein, la culture, c'est vrai, je ne vivais pas en France, mais je connaissais, pour dire, beaucoup de gens connaissent déjà intégré voilà, la culture française, les valeurs françaises, et là, on est là pour vraiment améliorer et non pas, en tout cas, contribuer à ce que, voilà, la France, hein, continue à s'épanouir sur la scène internationale et faire ces pays-là notre pays. Voilà, principalement.
Eh bien, ce sera un très beau mot de la fin. Merci à toi pour ce témoignage et merci encore de nous accorder du temps pour transmettre à d'autres. Et voilà, donc un grand merci.
Merci beaucoup. Voilà. Longue vie à nous tous, à nous toutes. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Franchement, ça me soulage énormément parce que c'est une charge de porter tout cela. Et vraiment, j'espère que ça va vraiment. Ça dira que tout le monde, hein, toute personne qui aura l'occasion d'écouter cet entretien, ou qu'est-ce qu'on peut dire, ce témoignage, que ce témoignage servira à quelque chose. Voilà, servira à quelque chose et qu'ils pourront en profiter et vraiment réfléchir pour pouvoir accepter, en tout cas, vraiment accueillir toutes ces personnes qui viennent et après les faire franchement faciliter et ne pas avoir une mauvaise image, mais une belle image et d'être humain pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Voilà. Merci encore.
Merci
beaucoup.
Et voici de retour dans les studios de Radio Canu. C'est la causerie, donc comme tous les dimanches, de 22h à 23h30. Et on vient donc de s'écouter le témoignage d'Amina. On souhaiterait juste la remercier encore une fois d'avoir partagé tout ce qu'elle a fait, enfin tout ce qu'elle a partagé avec nous, nous avoir fait confiance. On vous rappelle que toute la playlist, ça a été choisi en tout cas avec la participation d'Amina. Vous retrouverez toute la playlist sur le blog de la causerie. C'est blogs.radiocanu.org/la causerie.
On voudrait peut-être s'excuser aussi des petits problèmes techniques qu'on a eu ce soir parce qu'il y a eu deux petites coupures, dont une à la fin du dernier titre. Le dernier titre qui était, vous le saurez, mais ça s'appelle Dambolo. C'est des Amazones d'Afrique. Et juste pour vous dire la fin du titre, ce qu'elle n'a pas pu dire justement, parce que ça a été coupé. Comme elle le dit donc, laissez parler les femmes, laissez-leur prendre la place qu'elles ont dans la société. Nous sommes vos égales et non simplement vos mères. Nous sommes vos égales et non simplement vos ventres. Laissez-nous construire, nous aussi, le futur. Voilà.
Eh bien, on va se quitter là-dessus.
Bah oui, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, la causerie, comme tous les dimanches, de 22 à 23h. On vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu. Bonne semaine à vous et à bientôt.
Salut.
Jour pour jour, font des tours, tour à tour. Il y a des jours et des vies, et des vies dans le temps, qui séjournent dans le vide, dans le temps de folie, qui s'élancent dans le vide, dans le temps, comme un grain dans le vide, comme un grain de folie. Il y a des jours incertains, au détour.